Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je profite que c'est un des dimanches de janvier pour vous témoigner au nom de ma femme et moi-même tous nos bons vœux, non pas politesse, mais nos bons vœux dans la foi, afin que Dieu, dans sa grâce, cette année et avant la fin de cette année, s'il est parvenu, vous soyez pleinement bénis au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je demande à Dieu qu'il vous dépasse. J'aimerais vous poser une question, mes frères et sœurs, est-ce que ça vous est arrivé dans la vie d'être triste? Qui peut dire, en levant la main, je n'ai jamais été triste, même en étant chrétien? Alors, on sait tous ce que c'est que la tristesse. Alors, le Seigneur m'a proposé de lire avec vous un texte pour que nous puissions faire six découvertes dans la richesse de Dieu quand nous passons par la tristesse. Nous allons lire un texte d'une personne qui avait le cœur lourd quand elle est venue au culte, blessée, rongée, dévorée. Et lorsqu'elle est ressortie, elle dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel ». Alors, si peut-être il y a parmi nous ce matin des frères et sœurs qui sont venus avec une certaine tristesse, je prie Dieu pour que sa parole soit confirmée et que tous nous repartions avec des chants d'allégresse. Bravo. Alors, je propose une lecture dans la parole de Dieu, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er. C'est dans l'Ancien Testament. C'est après le livre des Juges de Ruth. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 4. Un épisode excessivement connu. Se trouve à Silo, pas loin de Jérusalem. Et voici ce que nous pouvons lire. 1 Samuel 1, 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, ne mangeait point. Et Kana, son mari, lui disait, « Mais Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas, pour toi, mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume, ou l'affliction dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle versa des pleurs, et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et que tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, et Élie observa sa bouche. Elle parlait en son cœur et ne faisait que de remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Mais fais passer ton vin !» Anne répondit, « Non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Et je vous propose que nous puissions dire, voilà. Frères et sœurs, elle dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. Il y en a certainement parmi nous qui, aujourd'hui, savent ce que c'est que douleur et chagrin. Et que quelquefois, pour changer un peu, pour s'avarier, au lieu de dire douleur et chagrin, on dit chagrin et douleur. Ça change un peu, mais c'est pareil. Et alors, il est écrit, toutes les années, c'était comme ça. Alors, vous savez qu'au début de l'année, nous sommes au début de l'année, on dit, je te souhaite une bonne année, une année nouvelle, bénie et de bonne... Oui. Et vous savez, c'est peut-être sympa dans le monde, mais ça change pas grand-chose. Hein. Je dirais, oui, ben, vous savez, tous les ans, on souhaite la bonne année, mais on passe par des moments difficiles. Chaque année qui passe les unes après les autres, il n'y avait rien de nouveau. Chagrin, douleur, excès de souffrance, routine, rien de nouveau, rien de changement. Quoique, il est dit dans l'abîme, il n'y a rien de nouveau, mais sous le soleil, mais au-dessus du soleil, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et à la droite de ce quelqu'un, il y a Jésus. Alors c'est vrai que sous le soleil, on n'a rien à espérer. Mais notre cité à nous, elle est plus haute que le soleil. Et cela, mes frères et sœurs, va nous amener à découvrir que Dieu a raison quand il dit « Je fais toute chose nouvelle ». Et ce matin, pendant que nous parlons de cette parole, vous qui êtes rentrés dans l'assemblée avec un chagrin et une douleur, je veux le dire de la part du Seigneur, vous allez ressortir, consolés, libérés, fortifiés par la grâce de Dieu et non pas par moi. Et vous donner la preuve. Chaque année, et chaque fois, voyez-vous la routine, qu'elle montait à la maison de l'Éternel, elle souffre. Elle est blessée dans son cœur. Son cœur est blessé, elle est affligée. Et des fois, on dit, mais enfin, pourquoi le Seigneur m'a-t-il affligé? Ça vous est arrivé de dire ça? Pourquoi, Seigneur? C'est arrivé aussi à Job. Hein. Mais j'ai remarqué que Dieu, des fois, permet que nous soyons affligés. Dans le fond, c'est Dieu qui avait rendu stérile Anne. Donc, Dieu permet que nous soyons un peu affligés. Mais il ne permettra jamais que nous soyons affligés au-dessus de nos forces. Et si c'est au-dessus de nos forces, c'est que ce n'est pas Dieu qui nous afflige, c'est nous qui multiplions l'affliction par 10. Dieu nous afflige, mais il a mesure. Mais nous, dans notre tête, pas vous, parce que vous êtes parfait, mais moi, dans ma tête, j'ai tendance à multiplier et à grossir mon petit point sombre qui est dans mon cœur. Car dans le fond, frères et sœurs, cette femme, elle a tout pour être heureuse. Elle n'est pas célibataire. Elle peut pas dire, comme une chanson, « Je suis seul ». Deuxièmement, elle a un mari. Et pas n'importe quel mari, un mari qui l'aime. Vous avez remarqué qu'en ce moment, on est en pleine violence conjugale. Elle a un mari, on sait bien, mais un mari qui l'aime, c'est quand même plus. Non seulement elle a un mari qui l'aime, mais elle a le plus d'argent que les autres. Parce que lui... Elkana donne à sa femme une pension double. Alors, elle a une maison, un mari qui l'aime, le double d'argent. Qu'est-ce qui lui manque? Elle est triste, mais qu'est-ce qui lui manque? Des gens disent, oh, si j'avais ce qu'elle avait. Oui, elle avait tout, sauf une affliction. Une seule. Dans son cœur, qu'elle traînait comme vous, mon frère ou ma sœur, elle souffre dans son cœur, elle le dit. C'est là-dedans que ça se passe. Et ce matin, il y a aussi des frères et sœurs qui souffrent. Ça ne se voit pas extérieurement, mais ça, c'est profond dans votre cœur. Car la question, dans le fond, où on souffre le plus, mes frères et sœurs? Bien souvent, on souffre le plus dans notre famille. On souffre le plus avec les nôtres. Je vais en donner quelques preuves. Dans quel endroit souffre-t-elle? Dans sa maison. c'est-à-dire avec les gens avec lesquels elle vit quotidiennement. David l'a expliqué, le roi David. Il dira dans le deuxième des livres de Samuel au chapitre 16, « Mon fils, parlant de son fils, mon fils m'en veut. » Et quand un enfant en veut à ses parents, les parents, ça leur fait mal, c'est vrai ou pas? Bon, David dit ça dans 2 Samuel 16. Il ajoutera dans le psaume 69, je crois, au verset 8, « Je suis devenu pour les miens un étranger, un inconnu. » On souffre dans la famille. Et puis, il ajoutera ce texte bien connu du psaume 27, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel... » Alors voyez-vous, c'est vrai, mes frères et sœurs, que dans l'assemblée, on vit une heure et demie, mais dans la maison, on y vit 24 heures sur 24. On est nous-mêmes. Et des fois, c'est dans la maison qu'on pleure le plus, c'est vrai ou pas? Et c'est là sa souffrance. Or, frères et sœurs, Satan va se servir de Pénina. Et remarquez bien que sa souffrance, Satan va appuyer sur son point douloureux. Elle a une douleur dans son cœur. Éternel l'avait rendue stérile. Et Pénina va appuyer là-dessus sur sa faiblesse. Satan est un lâche. Il appuie toujours sa main sur nos points faibles. Et il se sert de ça. De ce qu'elle a une... pas disons une infirmité, mais d'une impossibilité voulue par Dieu. Dont le but est quoi? Non pas qu'elle soit heureuse, mais le but de Satan, c'est de la porter à s'irriter, à s'aigrir, à avoir de la colère. Non pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de Dieu. Satan a toujours, depuis la Genèse, a toujours décidé de défigurer Dieu. Regardez ce qu'il dit à Adam et Ève. Mais Dieu sait que si vous désobéissez, vous serez comme lui. Il donne des mauvais sentiments. Et aujourd'hui, frères et sœurs, avec ce bacille, avec ce virus qui existe, Satan sait très bien que ça fait peur aux gens. Et alors, il va mettre l'accent dessus. Il va mettre le poing dessus. Et c'est vrai. C'est excessivement dangereux, ce vaccin. Les gens se protègent avec un masque et ils ont raison. Mais, à mon avis, le plus grand danger pour nous, chrétiens, c'est la communion fraternelle qui visait à nous séparer les uns des autres, à ne pas nous regarder les uns les autres, à nous tenir éloignés les uns des autres. Le contraire de l'Évangile. Bien sûr, il faut le faire par prudence. Mais vous remarquerez bien que quand il fait cela et qu'il nous permet de faire 4 cultes ou 5 cultes, bon, c'est bien quand on peut le faire. Mais c'est bien la communion fraternelle. Parce que bon, là, vous êtes assis. Mais on vous dit, juste après la prédication, le message, allez, sortez, sortez, ne vous parlez pas. Or, on a besoin de se parler. Oui, il y a le téléphone, c'est vrai. Oui, il y a Internet, c'est vrai. Mais ça vaut pas. Ce que le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain, et non pas ton lointain, ton masqué. Non, voyez où? Donc nous, on est obligés, parce que c'est la prudence légale, mais dans le cœur, il y a une souffrance. Et là, sur cette souffrance, Satan attaque pour nous dire, irrite-toi, s'il y avait un bon Dieu. Hein? Irrite-toi, tout ce qu'il te raconte au 275 avenue de Ménil, tous les chants qui te font chanter, tout ce que les pasteurs disent, voyons, regarde, tu vois bien? Toi aussi, tu as une plaie dans ta vie. Et cette femme, elle a une plaie dans son cœur, frères et sœurs. Car le rôle de l'ennemi, c'est de nous porter à murmurer. Car dans le fond, il lui manque rien, cette femme. Elle a la santé, hein, quand même. Elle a un mari, oui. Elle a de l'amour, oui. Elle a de l'argent, oui. La seule chose qui lui manque, c'est là où Satan va attaquer. Or, frères et sœurs, après vous avoir montré rapidement l'état de son cœur qui souffre quand elle dit « Je ne suis pas une femme pervertie, j'ai une femme qui a mal. Ça ne se voit pas, mais j'ai mal dans mon cœur. À cause de l'excès, il y en a trop. » Vous n'avez jamais dit ça? Trop? C'est trop. J'aimerais vous montrer, avec l'aide de Dieu, maintenant, le cœur de cette femme. Parce qu'il y en a qui disent, pas ici parce que c'est parfait, mais il y a des chrétiens qui disent, quand ils en voient d'autres tristes, « Oh, un chrétien triste, ça se fait pas, faut te secouer. Oh, un tel... Oh non, je parle plus parce que là... Oh, » quand elle vous prend ou quand il vous prend, on s'en sort plus. C'est des jérémiades. Alors je m'éloigne. Regardez le cœur d'Anne. Avant que Dieu n'intervienne, avant de découvrir les richesses de la tristesse, regardez. Son cœur est un cœur aimant. Croyez-vous que la Bible est inspirée par Dieu? Est-ce que ce qui est écrit là est vrai? Eh bien, ça prouve que tout ce qui s'est passé dans la maison de Anne a été enregistré par Dieu. Et vous ne trouverez pas dans la maison d'Anne une parole aigre vis-à-vis de Pénina. Aucune critique. Elle est aimable. Vous me direz, oui, mais attendez. Et quand elle vient à la réunion, au temple, et que le pasteur du haut de la chaire, où les anciens disent, Anne, je prierai la sœur de se taire un peu, hein, parce que quand elle vient au culte, elle est ivre. Imaginez qu'on fasse ça. Est-ce que ça vous fait dire? Sortir de l'église, je ne partais plus les pieds là-dedans. Il n'y a pas d'amour. Vous remarquerez comment elle a répondu à Élie. Voyez-vous que c'est une femme aimable et aimant. Elle aurait pu dire, mais Élie, oh, oh, oh. Elle s'est soumise. Chapeau, frères et sœurs. Alors, vous savez, quand on se laisse mort par Satan, parce qu'un tel a dit ça, un tel a dit ça, le pasteur, mais le pasteur c'est un homme, il y a des fois un mot qui échappe et qui est malheureux, Satan va s'en servir pour te dire, je te l'avais bien dit. Elle non, elle est aimable. Voilà ce que je trouve dans son cœur. Avec son mari, elle ne fait pas d'histoire, elle ne lui dit pas, écoute, mon chéri d'Elkana, fous-la dehors cette Pénina. Non. Mais regardez la deuxième chose. L'Écriture nous montre qu'elle est à la fois aimable, douce et paisible. Et vous savez que l'apôtre Pierre, connaissez l'apôtre Pierre, il était marié. Oui. Et savez-vous qui parle du couple? Il dit, une femme qui a un esprit doux et paisible, c'est un grand prix aux yeux de Dieu. Et c'est exactement le cas de cette femme. Elle est douce et paisible. Et mes sœurs, mon frère, si dans tout ce que tu subis dans ta maison, de fausses choses, d'accusations, t'es pas compris, t'es enfoncé, que Satan essaye de te démonter, reste calme, douce et paisible. Parce que c'est un grand prix devant Dieu et ça te fera ressembler à Jésus qui était doux et humble de cœur. La troisième chose que je note, c'est que cette femme, tout en étant dans la souffrance, elle réfléchit. Et vous, sa prière, elle dit, si tu me donnes un fils, ça me permettra de fermer ma bouche à Pénina. Non. Si tu m'exauces, ça va me mettre en valeur. Non. Si tu m'exauces, l'exaucement que tu me donneras, je te le donne. Et attendez, donner à Dieu, oui. Parce que si vous lisez bien le premier livre de Samuel, vous verrez que à cette époque, les serviteurs de Dieu n'étaient pas fréquents. La parole de Dieu était rare et il n'y avait pas beaucoup de visions. Donc Dieu aussi avait besoin de trouver quelqu'un. Et quand elle dit « si tu me donnes un fils, ça sera pour toi », elle est en communion avec Dieu. Et elle va prier Dieu, sans le savoir peut-être, en elle-même, selon sa volonté. Et quand on prie Dieu selon sa volonté, il nous... Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est vrai à Paris, c'est vrai ce matin, parce que ce Dieu-là, il est là. Et il va confirmer sa bonne parole. Et puis, je remarque que c'est une femme aimable, douce, paisible, réfléchie, mais surtout capable de prendre des décisions. Pendant des années, il en était ainsi. Toutes les années, ah, bon vœu, Anne. Alors, tu vas accoucher cette année, bon vœu. Elle en avait ratata, rien ne changeait. Elle aurait désiré un fils pendant des années. Mais ce jour-là, elle a changé ses désirs en décisions. Mes frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui passent leur temps à désirer. Ils désirent puis ils font rien. Si tu changes tes désirs en décision. Alors, quelle est sa décision? Sa décision, c'est de rester devant Dieu. Sa décision, c'est de parler à Dieu. Sa décision, c'est de ne pas téléphoner à un tel. Oh, si vous saviez ce qui m'arrive à une telle. Oh, si vous saviez ce qui m'arrive à un autre animal. Oh, si vous saviez ce qui m'arrive. Non. Elle a pris la décision. Elle ne raconte pas aux hommes. Elle parle à Dieu. Oui, frères et sœurs, elle parle à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et comment prie-t-elle? Est-ce qu'elle fait du bruit? Est-ce qu'elle crie au point qu'on dit, on veut lui dire, s'il y a des gens qui prient fort, mais Mais attention, Dieu n'est pas sourd, il n'est pas comme moi, il n'a pas d'aide auditif. Vous remarquerez qu'on n'entend pas sa voix. Aucun homme n'entend sa voix. Il n'y en a qu'un qui l'entend, qui est là-haut, très haut, très haut, très haut. C'est Dieu qui l'entend. Parce que c'est la prière du cœur. C'est la prière d'une femme qui en a assez et qui veut que ça change et qui s'attend à son Dieu. Elle prie, et c'est écrit. Elle prie qui ? Élie ? Elle se prie elle-même pour que les gens disent « Oh, qu'est-ce qu'elle prie bien !» Elle prie l'Éternel. Frères et sœurs, apprenons à redécouvrir que si je prie dans l'assemblée, c'est pas pour en mettre plein la vue. Malheureusement, si c'est ça, je suis un hypocrite. Mais si je prie, et si ma voix est un peu forte ou un peu faible, je prie surtout pour que mon Père soit exauce ma prière et entende. Car elle va jusqu'à dire « Seigneur, non, c'est pas le bruit de mes paroles !» C'est que je répands mon âme devant l'Éternel. Pas devant les hommes, devant l'Éternel. Et cela va l'amener à se sortir de sa tristesse et à faire, ça va être rapide, 6 grandes découvertes. Première découverte, en lisant son histoire, je trouve que dans cette tempête qu'elle passe, depuis des années, il n'y a rien qui change, elle découvre la puissance de la parole de Dieu. Je m'explique. Élie, au début, se trompe. Il fait passer ton vin. Et quand elle explique la vérité, Élie lui dit, va en paix. Pas ça qu'il lui dit? Va en paix. Que Dieu exauce ta prière. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ce jour-là, elle a découvert, au-delà de ce Élie fatigué, un petit peu spécial sur le plan du discernement, elle a discerné dans sa bouche une parole de Dieu. Et c'est ça sa première découverte, mes frères et sœurs. Vous avez la Bible, nous avons la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit avec laquelle le monde a été créé. La parole est devenue chair. Et cette parole qui est devenue chair s'appelle Jésus. Frères et sœurs, première découverte. Découvrons ensemble, s'il vous plaît, la puissance de la parole. Et cela va lui amener à une deuxième découverte. Après avoir entendu la parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, mes frères et sœurs, elle nous donne l'image de la deuxième découverte. Elle découvre la foi, c'est-à-dire la confiance dans la parole. Je m'explique. La tempête, la tristesse, le chagrin, la peine nous permet des fois d'entendre la voix de Dieu. À quel moment Job a-t-il entendu la voix de Dieu? Voilà, merci Claude. Au milieu de la tempête. Pas vrai? À quel moment les apôtres ont dit tous ensemble à Jésus, tu es véritablement le Fils de Dieu? Dans la tempête. Et c'est dans la tempête que tu vas ce matin entendre une parole de Dieu. Et ce que Dieu attend de sa parole, c'est que tu y crois. Tu dirais, mais c'est pas écrit. Si, si, regardez. Après avoir entendu la parole, elle partit. 1. Se leva. 2. Mangea. 3. Son visage ne fut plus le même. A-t-elle vu un exaucement? Est-elle déjà enceinte? Elle n'a rien. Elle a simplement entendu une parole, la parole de Dieu, qu'elle croit. Et c'est suffisant. Ma sœur, mon frère, ne te fatigue pas à courir à droite, à gauche, à prendre Internet, et puis à écouter tous ces prophètes de malheur qui annoncent des choses qui ne concernent pas la grâce de Dieu et qui désirent se mettre en avant, se prêcher eux-mêmes. Non, tu as la parole là, dans ta main, lis-la, crois-la, et tu verras la gloire de Dieu. Et puis, elle est partie, elle n'était pas encore enceinte, et pourtant, elle a retrouvé le goût de la vie. Et vous savez, quand on est déprimé, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déprimé? Quand un homme est déprimé, enfin une femme, je peux pas dire, mais moi, quand je suis déprimé, j'ai pas envie de me raser. Parce que je trouve que c'est la barbe. Oh, ça me dit rien. Cravate, oh, pff, pantalon, et chaussures, non. Quand on est déprimé, on a le goût à rien. Pas vrai? Ah, t'as pas regardé De Funès à la télé? On a le goût à rien. Eh bien, la foi, mes frères et sœurs, sans rien voir, elle a retrouvé le goût de vivre. Et elle a encore rien vu. C'est ça, la foi. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et puis, cela m'amène à souligner une troisième chose essentielle, que vous trouverez dans 1 Samuel 2, 1. Vous savez, elle a fait un cantique. Et vous savez quels sont les premiers mots de son cantique? Oui. Elle a dit, mon cœur souffre, je souffre dedans de moi, c'est l'excès de ma douleur. Mais là, maintenant, au chapitre 2, verset 1, la même femme, qu'est-ce qu'elle dit? Mon cœur se réjouit. La joie de Dieu. Car remarquez bien, elle aurait pu dire, « Oh, mon cœur se réjouit en Samuel, enfin j'ai mon fils !» Non, elle ne se réjouit pas en Samuel, c'est en Dieu qu'elle se réjouit. Notre joie, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement dans les choses, c'est dans la personne de Dieu. Jésus dit, « Je m'en vais, je vous reverrai, afin que votre joie soit parfaite. » Jean-Sébastien Bach a écrit un cantique qui existe sur les ailes de la foi, dont la mélodie c'est « Jésus, que ma joie demeure ». Mais ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction de l'allemand en français, c'est « Jésus, que ta joie demeure en moi ». Différent. Ta joie, Jésus, demeure en moi, non pas ma joie. Et si c'est ta joie à toi, Jésus, alors c'est la perfection. La quatrième découverte qu'elle va faire, elle va découvrir le caractère de Dieu, verset 8 du chapitre 2. Le premier livre de Samuel, vous savez, elle dit du Seigneur ceci, « Nul n'est saint comme l'Éternel. » Voilà la quatrième découverte. « Nul comme l'Éternel. » Il est le rocher, c'est-à-dire le fondement solide, ça bouge pas envers et contre tout. Qu'il pleuve, qu'il vente, que la mer se déchaîne, le rocher tient. Ta sainteté, Seigneur, c'est ce qui me donne de la force et du courage dans la vie. Car, regardez bien, ta grâce relève, verset 8, relève le pauvre et l'indigent. 2. Ta grâce relève celui qui est sur le fumier afin de l'élever et de le faire asseoir avec les autres. Et alors, je regardais dans la Bible, vous savez, fumier, ça c'est une traduction de Monsieur Second, mais les Hébreux traduisent par ces mots, je trouve que c'est pas mal, le fumier, c'est ce qu'on rejette. Et la grâce de Dieu est sur les hommes et les femmes qui sont rejetés par la société. Et du fumier, je vais te lever au-dessus avec les grands et te faire asseoir sur le trône. Dans Ésaïe, chapitre 30, il est écrit, « Mais Dieu désire te faire grâce. Ma sœur, mon frère, son désir, ce matin, c'est que tu reçoives sa grâce. Et sa grâce qui va t'amener à dire, « Je puis tout !» par celui qui me fortifie. Ah, la cinquième chose, c'est la richesse. Elle trouve la richesse de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aime l'apôtre Paul quand il nous parle de la richesse de sa grâce. C'est pas écrit ça? La richesse de sa grâce. Afin de montrer, dit la Bible, dans tous les siècles à venir, la richesse de sa grâce en Jésus-Christ. Oui, Dieu dans sa grâce est riche. Elle a demandé combien de fils? 1. Elle en a donné combien? 1. Elle en a obtenu combien? 2. 3. 4. 5. 5 plus 1, ça fait? Ah bien. Pour 1, elle en a récupéré 5. C'est du 500%. Allez à la caisse d'épargne. Et vous verrez ce que ça vous rapporte. Mais allez à la caisse de Dieu. Ah Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je t'apporte mon cœur. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Prends-moi tel que je suis. Et cela va m'amener, mes frères et sœurs, à découvrir avec vous cette grande vérité. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que le cœur n'a pas connues, que les oreilles n'ont pas entendues. Des choses que Dieu a réservées pour qui? Pour qui? Pour ceux qui? Pour ceux qui critiquent? Pour ceux qui l'aiment? C'est pour ça que quand Jésus trouve Pierre après son reniement, la grande question qu'il lui pose, c'est mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, mes frères et sœurs, un fils et la récolte 500%. Et chaque fois que tu donnes ta vie au Seigneur, il te déborde. il te dépasse, il t'étonne. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. C'est ça sa richesse. Et la sixième richesse, eh bien elle chante. Elle n'est pas rentrée au culte en chantant, elle est rentrée au culte en pleurant. Mais elle repart avec des chants d'allégresse. Elle dit « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel ». Puis-je vous dire qu'après cette expérience-là, un an passé, 9 mois ont passé, et 9 mois après cela, elle a découvert la naissance de Samuel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et alors, où c'est beau encore, c'est qu'elle a sevré son fils. Je sais pas combien de temps, je suis pas une femme, je sais pas si ça se fait encore. Vous savez, les bébés, on les sèvre. Ça dure combien de temps?
Ça dépend.
Ça dépend. Ouais. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. J'en ai connu un, c'était 5 ans et demi, mais c'est pas moi. Donc, 9 mois après, elle voit ce qu'elle a cru. Attendez, c'est pas du bien. Et elle dit à son mari, attends, je vais le sevrer. Donc, il y a encore des mois qui passent, des années. Et quand l'enfant a été sauvé, elle va au temple. Et savez-vous ce qu'elle trouve dans le temple? Le même bonhomme. Le même Élie. Et elle est obligée de lui dire, mais tu sais, Élie, je suis la femme qui... Maintenant, je te donne mon fils. Voilà tout ce que Dieu, dans sa grâce, est capable de faire. Ma sœur et mon frère, fais passer ton chagrin. Dieu dit dans Joël, je te remplacerai les années que t'ont dévoré les ennemis. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Il est écrit dans Jérémie 30, 17, je t'ai vu, je te guérirai, je panserai tes plaies, parce que nul prend soin de toi, mais moi, je te regarde. Voulez-vous que nous courbions nos fronts? Entre tes mains, j'adore. Quoi? Tout. Oh, ne permet à personne. Seigneur, d'en reprendre. Et ce matin, tous ensemble, oui, prends tout. Glory to praise of God. Encore, oui. Sans rien.